Voilà, mais ça m'a fait rire de voir Rubens tout à l'heure, le petit dernier qui était oublié. C'est toujours, c'est marrant, hein? Comment on est toujours, ça se passe toujours avec David, c'était pareil. Et je voudrais parler de Saül et de David aujourd'hui. Et je voudrais partager là-dessus parce que ben Saül et David, c'était deux rois qui avaient tous les deux ben, une destinée qui normalement était censée être celle d'un roi, de celui qui écoute la voix de Dieu, de celui qui se laisse conduire par Dieu, qui se laisse diriger par Dieu et qui voit Dieu à l'œuvre. Mais leur destinée n'a pas été la même. Et pourtant, les deux personnages, Saül comme David, avaient des faiblesses. Tous les deux n'ont pas manqué de péché contre Dieu, et même certaines des faiblesses ont été plutôt terribles, ont eu plutôt des conséquences terribles, et c'est pas que celle de Saül, c'est aussi David. Et donc on pense souvent à David comme, voilà, c'est le grand roi d'Israël, c'est celui vraiment qui a porté la royauté à quelque chose d'extraordinaire, et qui a marché selon le cœur de Dieu, mais aussi celui qui a fait des choses que franchement ce serait aujourd'hui, je dirais, mais attends, mais t'es exclu de l'église là. Qui a fait des choses aussi vraiment terribles pour lui-même. Donc Saül, le premier roi d'Israël, désigné par Dieu, bien sûr, il a été désigné par Dieu, mais sur la demande du peuple. Le peuple voulait un Dieu, voulait un roi, excusez-moi, il voulait un roi, mais comme le font les autres nations. Comme le font les autres nations. Donc dans 1 Samuel, on va prendre le livre, même si je ne vais pas vous lire tout, hein, parce qu'on n'en a pas fini. Là. Et d'ailleurs, ce sera une bonne lecture intéressante à reprendre, je pense, chez vous. 1 Samuel, au chapitre 8. Et alors que Samuel, il parle au peuple et il lui dit mais voyons, votre roi, c'est Dieu. Celui qui dirige votre vie, c'est Dieu. C'est lui que vous devez servir. Et le peuple refusa d'écouter. Donc au chapitre 8 et au verset 19 de 1 Samuel, le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous et nous aussi. Nous serons comme toutes les nations, notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Le peuple voulait faire comme les autres peuples. Il voulait être comme les autres peuples. Il voulait pouvoir avoir un roi comme les autres peuples. Et jusqu'alors, c'était la période des juges, donc il y avait Samuel, il y avait tout. Et les juges étaient donc des personnes qui étaient conduites par Dieu, un peu comme des rois finalement, mais qui amenait la volonté de Dieu pour conduire le peuple. Et donc Samuel faisait partie, même s'il était prophète, et le peuple voulait changer de période. Il voulait s'adapter à cette nouvelle période qui était là, tous les autres, toutes les nations avaient des rois, et donc ils disaient, ben, nous aussi nous voulons un roi. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Pas initialement. La volonté de Dieu, c'était que lui règne sur leur vie. C'était que lui soit le roi. Et par Christ, nous savons que ce roi-là est rétabli dans nos vies lorsque nous le faisons entrer dans nos vies, lorsque nous le laissons agir, lorsque nous nous laissons façonner par lui. Le roi est entré dans nos vies par Christ. Et le peuple voulait un roi, mais le roi en question, ce n'était pas Dieu. David, lui, c'était le premier roi d'Israël, mais qui a été souverainement choisi par Dieu. Et l'un comme l'autre était loin d'être parfait. Chacun des deux ont été élus, choisis, mis à part. Ça a été vrai pour David, ça a été vrai pour Saül. C'était des hommes de guerre, en tout cas qui étaient censés partir à la guerre, parce que Saül était un peu plus hésitant, et qui étaient censés partir à la guerre, non pas juste pour faire la guerre, mais pour montrer la grandeur du nom de Dieu. Parce que les nations qui étaient autour blasphémaient le nom de Dieu. Ces nations comme Typiquement avec David et Goliath, quand il y a l'histoire de David et Goliath, ces nations avec pour dieu Dagon, tu te souviens de Dagon, c'était un dieu devant lequel quand l'arche avait été prise, elle avait été emmenée par les Philistins, s'est retrouvée devant une statue, cette statue est tombée devant l'arche, prosternée devant l'arche. Et ces peuples qui sont autour et donc qui adorent d'autres dieux blasphèment contre le nom de Dieu. Ils disent facilement, mais ces Israélites-là, leur Dieu, on peut en faire qu'une bouchée, notre Dagon peut en faire qu'une bouchée. C'est ce qui se passe au moment où, le Goliath défie les hommes de Saül. Et c'est un moment clé de l'histoire entre Saül et David. Et donc, forcément, tous les deux, ils ont connu des moments de gloire et des moments particuliers de faiblesse. D'abord, Saül. L'élection de Saül, donc je l'ai dit, elle se fait à la demande du peuple, mais aussi sous la pression du peuple. Et elle se fait aussi très rapidement. Le peuple veut, manque d'impatience, il veut absolument un roi. Il veut absolument que Dieu leur donne un roi. Ils ne veulent plus de Dieu pour roi. En tout cas, ils ne le disent pas comme ça. Et c'est ça que ça dit. Ils ne veulent plus que ce soit juste Dieu qui règne, mais qu'ils aient quelqu'un à qui parler. Quelqu'un, un vis-à-vis, à qui rendre des comptes. Et nous, aujourd'hui, on pourrait être comme ça. Je veux un vis-à-vis à qui rendre des comptes. Je veux un prêtre, je veux un pasteur, je veux ci. Mais Dieu est notre roi. Dieu est celui qui veut nous parler, celui qui veut nous conduire, nous diriger. Et le peuple ne se satisfaisait pas de cette manière de faire. Et la manière dont Samuel choisit cet homme, d'abord c'est Dieu qui le choisit, mais la manière dont il est choisi de sorte qu'il plaise non à Dieu, mais aux hommes. Il avait une haute stature, il était beau, il était costaud. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un roi ? Visiblement, il a de quoi impressionner ses ennemis. Et la Bible nous dit qu'il dépassait tous les autres d'une tête. Et Saül était venu au départ, lorsqu'il a rencontré Samuel, et il était juste envoyé par son père pour aller chercher des chèvres, qui s'étaient perdues, ça et là, il ne savait pas où il s'était passé, il va à un endroit, il cherche, il ne trouve pas, il va à un autre endroit, il cherche, il ne trouve pas, et avec son serviteur, il dit, mais écoute, au bout d'un moment, il dit, écoute, on va retourner vers notre père, parce qu'il va plus s'inquiéter pour nous maintenant que pour les chèvres. Et le serviteur lui dit, écoute, voilà, il y a un voyant, parce qu'à l'époque, les prophètes s'appelaient des voyants, il y a un voyant qui est là, on peut aller le voir, et peut-être il va nous dire quelle direction prendre. Et Samuel, c'est le premier moment où Samuel rencontre Saül. Alors que Saül était en train de chercher quelqu'un pour lui donner une direction. Et ce quelqu'un, Samuel, Dieu lui parle, et il va lui donner une direction, mais pour sa vie. Il va lui donner une direction pour ce qui se présente. Le peuple veut un roi, c'est lui qui va être roi. Et alors que cette parole lui a été donnée, alors que Saül est élu, tout le peuple le cherche. Je ne sais pas si vous avez vu ce passage que je trouve plutôt intéressant, parce que au milieu de tout un tas de choses qui sont assez sérieuses, il y a une petite pointe d'humour, je trouve, si on fait ça en film. Dans 1 Samuel chapitre 10 et verset 20, donc Samuel a déjà parlé avec Saül, au verset 20, Samuel convoque tout le peuple devant l'Éternel, et Samuel fit approcher au verset 20 toutes les tribus d'Israël, et la tribu de Benjamin fut désignée. Ça tombe bien, c'est de là qu'il est. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille, et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva pas. Où est-il parti ? On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici ? Et l'Éternel dit, voici, et il est caché vers les bagages. On courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple, Il les dépassait tous de la tête. Donc le premier moment où Saül est choisi pour représenter Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. Il est caché parmi des bagages en plus. Lui qui est si grand. C'est un peu bizarre qu'il se cache. Lui qui est si grand, il serait petit, il aurait eu plus de chance. Mais il a trouvé le moyen de se cacher ce jour-là parce qu'il ne voulait pas de cette royauté. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans sa vie, mais certainement ça contrecarrait tous ses plans. Ça contrecarrait tous ses projets. Il avait peut-être envisagé bien d'autres choses, je ne sais pas, fonder une famille, faire tout un tas de choses. Mais là, il était en face d'une responsabilité. On lui dit, maintenant c'est toi qui vas représenter le peuple d'Israël. Et il avait les pétoches. Et il avait peur. Et c'est, quand on regarde ce moment-là, on comprend pourquoi toute la suite, Saül, était pris par la peur. Il n'avait pas, à aucun moment, il n'a véritablement accepté le fait qu'il soit roi. Si ce n'est à des moments pour, se gonfler un peu le torse et dire, mais oui, je suis roi. Mais la fonction de roi, il n'est jamais rentré dans cette fonction de roi. Il a fait des actions, il a fait des œuvres, il a fait certaines choses. Et Dieu lui a donné la réussite lorsque, le peuple dit, voilà, il faut aller combattre. Mais pour beaucoup de situations, il cherchait plutôt à se mettre en arrière. Il cherchait plutôt à s'effacer. Ce n'était pas son truc. Il voulait que Dieu lui parle au début, qu'il l'aide dans la direction à prendre. Et si nous voulons que Dieu parle, il faut aussi accepter ses choix. Les portes qu'il ouvre et aussi celles qu'il ferme. Moi, il m'est arrivé d'avoir des situations où Dieu m'a ouvert des portes et d'autres où j'ai rien compris, Dieu m'a fermé les portes. Et aujourd'hui encore, je n'ai pas tout compris. Mais c'est comme ça, parce que Dieu est souverain. Parce que Dieu, c'est celui qui conduit, qui dirige. Et si on lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où est-ce que tu veux que j'aille? Ce n'est pas pour imposer notre idée. Ce n'est pas pour dire, voilà, on va arranger la situation, parce que Saül essayait d'arranger beaucoup de situations à sa convenance. Mais c'est pour laisser Dieu agir, laisser Dieu travailler et laisser Dieu faire son œuvre. Au travers de Saül, Dieu cherchait à accomplir des œuvres. Dieu cherchait à accomplir des choses. Mais il y avait blocage, il y avait barrage. Saül demandait les choses à Dieu, mais il voulait des réponses qui lui conviennent. En fait, finalement, je crois que la vérité n'intéressait pas beaucoup. Ce qui l'intéressait surtout, c'était que ça puisse aller en sa faveur, que ça puisse répondre à ses besoins, mais est-ce que la vérité l'intéressait vraiment? Si Dieu disait autre chose qui n'était pas à sa convenance, est-ce qu'il allait accepter? L'histoire nous a dit que non. Il a fait des choses, il a accompli des œuvres, il a accompli des guerres, il a été sur le champ de la bataille. Mais à bien des reprises, à bien des moments, il s'est effacé, il a fui la volonté de Dieu, il a fui dans le mensonge. Il a fui dans le mensonge. Au point même donc qu'il se cachait le jour de son élection, ça c'est vraiment... Il semble vraiment qu'il soit jamais complètement rentré dans la fonction de roi. Il en avait le titre, et on peut tous avoir des titres, on peut tous avoir mettre des écriteaux quelque part, on peut tous avoir l'ambition d'être, je sais pas moi, apôtre, pasteur ou autre chose. Mais c'est pas le titre qui importe, c'est la fonction qu'il y a derrière. C'est pas ce qu'on met sur l'écriteau ou sur une carte de visite qui importe, c'est ce qu'on est capable de faire derrière, c'est ce qu'on est capable d'accomplir. Et si Dieu nous appelle, nous sommes capables d'accomplir. Si Dieu nous conduit quelque chose, c'est pas pour nous amener dans l'échec, mais c'est pour nous amener sur un terrain où d'un, nous apprendrons à le servir, et où de deux, nous accomplirons sa volonté. Nous marcherons à ses côtés, nous gagnerons en expérience, et nous serons plus proches de lui. C'est au travers de ça que nous pouvons avoir une relation avec Dieu. Quand on parle de une petite parenthèse. Quand on parle de relation avec Dieu, on parle souvent de relation avec Dieu. Et ça m'a... Il n'y a pas longtemps, ça m'a... Je me suis dit, mais en fin de compte, qu'est-ce qu'on veut dire par relation avec Dieu? Est-ce qu'il s'agit tous les matins de se lever à 5h du matin et de dire j'ai ma petite réunion de prière? Est-ce qu'il s'agit par moment de faire une chose qui fasse très spirituel? Est-ce qu'il s'agit de lever les mains lorsqu'on a la louange? Est-ce qu'il s'agit d'avoir tout un tas d'attitudes? Est-ce qu'il s'agit de ça? Avoir une relation avec Dieu, c'est être à la recherche et dans le désir de Dieu. Autrement, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et la manière dont Saül recherche Dieu, c'est pour lui-même. La manière dont nous cherchons Dieu détermine la manière dont nous le servons, détermine la manière dont nous marchons avec lui, détermine la manière dont nous recevons de lui. Saül ne voulait pas être roi. En tant que roi, il était amené donc à faire la guerre, mais il était indécis. Il y avait beaucoup de situations où il ne savait pas quoi décider. Et alors il dit, je vais me mettre devant Dieu. Il va prier, il va demander à Samuel de lui indiquer qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire. Mais dans bien des situations, il ne décidait pas. Pourtant, il avait reçu l'onction. Et l'onction, cette onction-là que David respectait. Parce que David, même si on sait, on connaît l'histoire, je suppose qu'on connaît l'histoire, même si David, plus tard, était en difficulté avec Saül, qui voulait le tuer, il respectait cette onction. Il respectait ce choix que Dieu avait fait pour la vie de Saül. Et plus tard même, bien plus tard, lorsque Saül est déchu de sa royauté, spirituellement en tout cas, lorsqu'il est déchu, Samuel prie, il pleure sur le sort et Dieu lui dit « Mais pourquoi est-ce que tu pleures? Pourquoi est-ce que tu pleures là-dessus ? » Je l'ai rejeté. Et s'il l'avait rejeté, ce n'est pas juste parce que il faisait des... C'est cette relation qui lui était demandée, ce rapport, cette relation qui lui était demandée avec Dieu, il l'utilisait pour sa propre cause. Et il vivait par la peur. Il vivait par la peur de ce qui pouvait arriver. Il vivait par la peur de mal faire. Il vivait par la peur d'un tas de choses. La peur dirigeait et conduisait sa vie. Il n'a de cesse de chercher les réponses à ses questions, mais quand il les a, soit il s'en détourne, soit il les arrange pour lui. Il y a un passage qui est un petit peu dur dans 1 Samuel 15. Dans 1 Samuel 15, Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi un roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. » Et donc il lui demande, « Ainsi parle l'Éternel, je me souviens d'Amalek, ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il ferma le chemin à la sortie d'Égypte. Il se souvient de tout. Va et frappe Amalek. Dévouez par interdit tout ce qui appartient. » Alors c'est des passages de l'Ancien Testament qui ne sont pas évidents. Parce que Dieu demande de dévouer par interdit, c'est-à-dire de ne rien laisser. De ne rien laisser d'un peuple, de ne rien laisser des personnes qui sont là. Et Saül va faire la guerre. Et ce qu'il laisse derrière lui, ce qu'il a dévoué par interdit, c'est tout ce qui était faible, tout ce qui était dénué d'intérêt, tout ce qui n'avait pas d'importance. Et les bêtes qui étaient en bonne santé, tout ce qui avait de la valeur, eh bien... il les ramène avec lui. Lui aussi est animé par la vue. Au lieu d'obéir, et c'est là que Dieu lui dit, mais par l'entremise de Samuel, il dit, mais moi les sacrifices, j'en ai que faire. Si tu n'obéis pas, ça ne sert à rien. Les sacrifices, tout ça, c'est bien. Et moi, ce qui m'importe, c'est que tu obéisses. C'est que tu suives ma volonté. Et quand le roi d'Amalek s'est présenté parce qu'il n'avait pas, il l'avait pas tué, lorsque le roi d'Amalek s'est présenté, il s'est présenté tout fringant. En disant, ah, parce que Saül n'avait pas été au bout de ce que Dieu voulait. Et ça passait par cela. Ça passait par effacer ce peuple. Pas juste parce que c'était un peuple, parce qu'ils avaient défié Dieu. Parce que Dieu se souvenait de combien ils avaient blasphémé. Parce que Dieu se souvenait de combien ils avaient perdurer dans le blasphème, dans le il cherche, il blasphème contre Dieu. Il parlait mal de Dieu. C'était un affront pour Dieu. Et dans cet affront, Saül n'a pas pris le parti de laver l'affront qui était donné par Dieu. Mais il a pris le parti, lui, d'en mettre un peu dans les poches. Et il trouve tout un tas de raisons. C'est le peuple qui a fait ci, c'est le peuple qui a fait ça. Mais c'était lui le roi. C'était lui qui décidait. C'était lui qui voyait ce que le peuple avait fait. Les uns, les autres pouvaient, faire des choses. Il était en mesure d'agir avec autorité, de dire ce n'est pas comme ça que Dieu veut qu'on fasse les choses. Dieu cherche un homme qui accomplira ses projets. Pas quelqu'un qui marche pour lui-même, quelqu'un qui le recherche et qui lui sera fidèle. Il cherche cet homme-là, parce que Saül n'est pas cet homme-là. C'est l'homme du peuple. C'est l'homme de la chair. C'est l'homme du regard. C'est l'homme de la volonté de l'homme. Mais ce n'est pas l'homme de la volonté de Dieu. Et quand Dieu se retire de Saül, sa solitude est encore plus grande. Son pessimisme est encore plus grand. Pour même l'impression qu'il rentre en dépression. Et la peur devient encore plus grande. La peur, c'est l'arme par laquelle le diable règne sur les vies. La peur. Quand on parle de l'enfer, il y a cette notion de peur, de terreur, de frayeur, d'horreur. Toutes les heures. On continue comme ça. Et c'est la peur qui décide qui est notre maître et qui ne l'est pas. Les disciples, je le dis souvent, priaient et disaient « Donne-nous de l'assurance » alors qu'ils étaient dans les persécutions. Et la semaine dernière, on a eu ce temps sur les persécutions, avec donc la semaine des persécutions, avec portes ouvertes. Et je pense que ça fait réfléchir tous les gens qui sont de par le monde et qui n'ont pas cette liberté de glorifier Dieu, qui n'ont pas cette liberté, en tout cas, de pouvoir le dire, qui n'ont pas la liberté de vivre leur foi pleinement et qui sont en face de la terreur. Et pour qui, je pense, la prière qu'ils peuvent prier, qu'ils peuvent faire, c'est « Donne-nous de l'assurance. Rends-nous fidèles. Donne-nous de marcher dans ta volonté. Donne-nous de persévérer, même si notre intelligence, même si nos forces s'amenuisent, même si la peur cherche à nous gagner, donne-nous de dépasser ça. Donne-nous de dépasser ce stade. » Et c'est vraiment la peur qui décide du maître que nous suivons. Ça peut être le maître de l'argent, ça peut être le maître des relations sociales, quand on a la peur de mal paraître, la peur d'être mal jugé, ça peut être tout un tas de choses. Mais quand la peur nous gagne, c'est elle qui règne. Et c'est pour ça que c'est important de réaliser que Dieu, c'est celui qui donne de l'assurance. Et dans ce moment-là, lorsque Saül a été délaissé par Dieu, a été rejeté, l'Esprit de Dieu s'est retiré. Pas complètement, parce qu'il était en vie, n'est-ce pas ? L'Esprit de vie, lui, était là. Le souffle de vie était là. Et un autre esprit est venu. Et il n'a pas été laissé tranquille. C'est important de prier et de chercher la face de Dieu, de le rechercher, de le désirer et de lui demander de l'assurance. Et de lui demander de nous conduire et de nous diriger dans sa volonté, dans ce que lui veut, pas dans ce que nous voulons. Lorsque Jésus priait, il a été confronté à ça. Nous sommes confrontés à ça. Il a été confronté à ça. Au moment où il aimerait bien que ça échappe, ce moment-là. Le moment où il sait qu'il va aller à la croix, eh bien, il aimerait bien, et la chair lui dit bien, j'aimerais bien qu'on ne passe pas par là. Mais il s'est repris. Il a dit non, pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Et Dieu, et un ange de Dieu est venu et l'a fortifié. Notre place doit être celle d'hommes et de femmes qui s'attendent à Dieu et qui le laissent s'exprimer au travers de nos vies. Des fois, on peut parler de l'évangélisation par rapport à ce que nous disons, mais nous sommes nous-mêmes des lettres vivantes. Nous sommes nous-mêmes, dit la parole, des lettres vivantes, des lettres lues et écrites par Dieu et lues de tous. Que nous soyons des lettres lues de tous. Ce sont ces lettres-là qui peuvent témoigner de Dieu. Parce que nous sommes, par notre être, parce que nous vivons, par nos décisions, par le fait que, mais je ne comprends pas, pourquoi tu n'es pas plus inquiet que ça? La peur ou pas la peur? Pourquoi tu... Comment ça se fait, moi, dans cette situation-là? Mais moi, je peux pas, je n'arriverai pas à réagir comme toi. C'est là qu'on voit que la peur dirige un grand nombre de choses dans ce monde. C'est là qu'on voit au travers des nations, des nations despotiques, tout un tas de nations, même Daesh, toutes ces choses-là, ils cherchent à régner par la peur. Tous les ennemis de la foi chrétienne cherchent à régner par la peur. Ça passe par des gens qui sont tués, ça passe par des gens qu'on assassine, parce que c'est le summum, finalement, de ce qu'on a, la vie, n'est-ce pas ? Pour créer la peur, pour créer la terreur et pour induire chez les gens un sentiment de doute, un sentiment de crainte. Mais nous, nous savons vers qui nous tourner. Et le problème, ce n'est pas nos faiblesses. Nous avons tous des faiblesses. David, Saül avaient des faiblesses. Mais ce sont nos ambitions, dans le bon sens du terme. Qu'est-ce que nous voulons? Où est-ce que nous voulons aller? Tout à l'heure, Nanou nous parlait et nous disait qu'il faut des fois se faire violence. Et c'est vrai que des fois, la foi, ça ne vient pas juste comme ça. Ça demande de prises de décision, des prises de position devant Dieu. Des prises de position pour Dieu. Parce que c'est là où nous nous situons, devant Dieu. Et ce n'est pas uniquement lorsqu'on le loue, lorsqu'on le... Mais c'est dans toutes les situations de notre vie. Notre ambition pour Dieu. Notre désir de le voir élevé. Notre désir de l'honorer. De le glorifier. Pour ce qui est de David, quand Dieu a choisi David, eh bien oui, il n'a pas choisi un homme parfait. Il a choisi un jeune homme, mais qui n'a pas peur. Parce que parmi tous les jeunes hommes qu'il pouvait y avoir, alors je ne connais pas l'âge, mais... Il y en avait un qui était capable de défier l'ours, qui était capable de se battre contre le serpent, qui était capable de défier toutes sortes de choses, le lion, toutes sortes de menaces, parce qu'il était berger, et qu'en tant que berger, il prenait soin de ses troupeaux. Et il aurait pu dire, bon, on va en sacrifier une, et puis tant pis, le reste va pouvoir partir. Tiens, vas-y toi, on t'envoie. On t'envoie comme ça, vas-y, le lion est là-bas, vas-y, et puis nous on s'en va. Il aurait pu faire ça. Il allait, et il combattait l'ours, il combattait le lion, et il combattait parce qu'il défendait ses ambitions. Il défendait ce qu'il avait entre les mains. Ce que Dieu avait placé entre ses mains, c'était pas un peuple, c'était un cheptel. C'était des moutons, c'était des boucs, enfin, c'était des animaux. Mais il le défendait bec et ongle. Ce que Dieu avait placé dans sa vie, il le défendait bec et ongle. Contre tout ce qui pouvait être une menace. Un homme qui n'a pas peur et qui croit en la fidélité de Dieu. Et c'est intéressant parce que Dieu a choisi David pour être roi, à la place de Saül. En catimini un peu, parce que Samuel, sinon, il risquait gros. Hein, on se souvient, donc, lorsque Dieu a rejeté Saül, Samuel a été appelé par Dieu pour aller choisir un roi. Onction. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque Samuel vient dans la famille donc d'Isaï, le père de David, la première chose qu'il voit parmi ses enfants, c'est le plus grand, c'est le plus beau et c'est le plus fort. Comme Saül. La première chose qu'il voit, c'est ce que ses yeux voient. Lui, Samuel, tout prophète qu'il était, il voit et il dit « Ah !» Comme pour Saül, hein, certainement c'est celui-là que Dieu a choisi. C'était le plus fort. Et Dieu lui dit « Non, non, ce n'est pas à ce que regarde l'homme. Moi, je ne regarde pas à l'apparence comme l'homme, mais je regarde au cœur. » Dieu regardait au cœur. On peut le prendre dans 1 Samuel 16. Donc c'est juste après, si vous avez ouvert tout à l'heure ou cliqué tout à l'heure. Samuel chapitre 16, verset 6. « Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Éliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Certainement. C'est une certitude. Il a l'habitude, il connaît ces choses-là, Samuel. Il a déjà vu ça, il a déjà vu comment Dieu choisissait, il connaît ces choses-là. Sauf que la fois précédente, Dieu choisissait un homme pour répondre à la volonté des hommes. Et là, il choisissait un homme pour répondre à sa volonté, pour répondre à ce qu'il voulait. Et l'Éternel dit à Samuel au verset 7, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. » L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel voit toute la profondeur de nos êtres, voit toute la profondeur de qui nous sommes, de ce que nous faisons, de ce que nous pensons, de ce que nous connaissons. Et il voyait la profondeur de David dans la confiance qu'il portait à Dieu. Parce que lorsque David est venu devant Goliath et a dit « c'est pas moi qui vais faire quelque chose, c'est Dieu », ce n'est pas quelque chose qu'il a fait lorsqu'il était juste devant le peuple et devant Saül. C'est quelque chose qu'il avait l'habitude de faire. David avait l'habitude de dire « C'est au nom de l'Éternel que je viens. C'est au nom de Dieu que je viens. » Il avait l'habitude de savoir, de voir les choses en cherchant la face de Dieu. Alors, au nom de l'Éternel, c'est peut-être pas, je sais pas, en face du l'ours, de l'ours et du lion, je sais pas s'il disait ça, parce que là, c'était quand même particulier, vu que Goliath, lui, quand même, il offensait Dieu. C'était vraiment ça. Mais il avait l'habitude de ces situations difficiles, de ces situations où il pouvait exercer la force. Et il dit à Saül, lorsque Saül le regarde et lui dit, mais quand même, toi, t'es un enfant, je ne peux pas t'envoyer là-bas, quoi. Je veux dire, t'es un tout jeune. Regarde, eux, c'est des hommes de guerre. Quand même, tu ne peux pas faire ça. Il dit, oui, mais moi, j'ai l'habitude de combattre. Je combats contre l'ours, je combats contre l'ur. Il a l'habitude de combattre. Et ce qui aurait été logique, finalement, puisqu'il a l'habitude de combattre, c'est qu'il aille vers Goliath dans cette habitude-là. En disant, moi, tu ne me fais pas peur, parce que j'ai l'habitude de combattre. Parce que j'ai tué des ours, parce que j'ai tué... Donc je sais que je vais pouvoir te tuer. Il aurait pu faire ça comme ça, finalement. Mais il n'a pas fait comme ça. Parce qu'il savait certainement qu'il y avait plus que ça. Cet homme qui était là, il offensait Dieu. Et dans sa connaissance de Dieu, il savait qu'il ne pouvait pas être possible qu'on laisse ça comme ça. Qu'on laisse Dieu se faire être offensé et être défié de la sorte. Surtout que l'ensemble du peuple était là. Surtout que le roi était là. L'ensemble des Philistins était là. Et le peuple d'Israël vivait au rythme de son roi, c'est-à-dire dans la peur. Le roi était dans la peur. Il ne savait pas quoi faire. Le peuple était dans la peur. Le peuple était dans la peur et ne faisait rien devant cette situation-là. Il se voyait petit. Et David, le plus petit, finalement, de sa famille. Ruben, c'est là? Non, il n'est pas là. David, le plus petit de sa famille, il ne se référait pas à sa petitesse. Il ne se référait pas au fait qu'il était, je ne sais pas, c'était pas minable, mais quoi? Tous les autres se moquaient de lui, même lorsqu'il est arrivé. Ses frères ont dit, mais qu'est-ce que tu fais là, quand même? Est-ce que tu viens pour nous narguer? Comment ça se fait que tu vas faire ci, tu vas faire là? Et reste dans ton coin, toi. Reste dans ton coin. Parce que c'est nous, les soldats. C'est nous, les hommes de guerre. C'est nous qui sommes forts. Et qu'est-ce qu'il faisait? Et c'est là qu'on voit, c'est important de savoir, de faire la différence entre un titre et une fonction, entre ce que je fais et ce que je suis censé faire. Parce qu'il faut être vrai. Parce qu'il faut être vrai avec ce que l'on est. Alors, il n'y a pas de problème, hein. Je veux dire, celui qui a une fonction, c'est bien. Mais ce que je dis, et pour moi, ça me tient à cœur, c'est de dire, c'est pas juste le fait de chercher à être quelque chose qui est important. C'est d'accomplir quelque chose devant Dieu. D'accomplir quelque chose dans la volonté de Dieu. Et peut-être, cette chose-là, elle paraîtra petite pour tous les autres. Parce que David, lorsqu'il paissait ses troupeaux, mais il ne faisait pas grand-chose pour Dieu. Mais Dieu le préparait. Et ça, les hommes, personne ne le voyait. Personne ne voyait la manière dont Dieu était en train de préparer, de sillonner dans la vie de David pour qu'il puisse être façonné et accompli selon sa volonté. Et à la différence de Saül qui a été élu rapidement, Dieu sait prendre son temps. Il a attendu le temps. David est né, peut-être pendant que, je ne sais pas à quelle période il est né, mais en tout cas, David est né et Dieu a commencé à poser ses regards sur cet homme-là. Il l'a préparé, il l'a arrosé, il l'a nourri, il a fait des choses, il l'a placé dans une situation particulière. Alors que tous les autres étaient plutôt dans la maison, lui, il était sur les champs. Parce que quand Samuel, il vient, David n'est pas là. Parce qu'il était en train de bosser. Il était dans le champ de Dieu aussi. Et alors, ça ne veut pas dire que les autres faisaient rien, hein. Je ne suis pas en train de dire ça. Je ne sais même pas ce qu'ils faisaient d'ailleurs. Mais ce que je dis, c'est que vraiment, Dieu, à l'inverse de lorsque Saül a été élu, Dieu a pris son temps, Dieu a pris le temps nécessaire pour qu'un homme sorte des rangs un jour, un homme que personne ne connaissait, un homme que tout le monde dénigrait, même jusqu'à ses frères, parce que c'était le plus petit et qu'il n'avait pas à rouler les épaules, on va dire. Et ce jeune homme-là, c'est lui qui va défier le plus grand de toute l'armée des Philistins. Et lorsqu'il le fait, effectivement, il aurait pu le faire, lui qui était tout petit, selon son habitude, mais il a choisi de le faire en prenant le parti de Dieu. En disant, toi tu viens avec des armes, tu viens avec tout un tas de choses, moi c'est au nom de l'Éternel, des armées que je viens. Il savait le besoin qu'il avait de Dieu. Il savait ce besoin-là. Ça ne veut pas dire qu'il a toute sa vie s'est bien passé. Parce qu'on connaît la suite de la vie de David. Et il a grand. Alors, ce qui est formidable avec David, c'est que finalement, comme Dieu était avec lui, il réussissait dans toutes ses entreprises. Tout ce qu'il faisait, ça réussissait. Et alors, Saül fomentait contre lui. Saül, il est pris par la jalousie de ce jeune-là que tout le monde aime, que tout le peuple met en avant, et même il lui attribue bien plus de victoires qu'à Saül. Comment c'est possible? Lui, c'est le roi. Moi, je suis le roi. Mais c'est David qui a fait le travail. Et c'est David qui récolte les honneurs. Très logiquement, des fois c'est pas toujours comme ça. C'était, je pense, pas forcément son objectif. Parce que son objectif, c'était de défendre Dieu, de défendre l'honneur de Dieu. Et nous aussi, on a à défendre l'honneur de Dieu. Alors je dis pas qu'il faut aller brûler des maisons, hein. Attention. Hein. Je dis pas qu'il faut... Mais je pense déjà que ça commence par le fait que nous sommes nous-mêmes engagés dans la volonté d'honorer Dieu. Nous sommes nous-mêmes engagés dans cette volonté-là. Et ce qui est étonnant, c'est que Saül, comme David, ont eu un moment relativement, moi je trouve, relativement identique. Et David, en pire, c'est ce moment-là où Saül cherche à tuer David, à tout prix. Il cherche à le tuer, il cherche un moyen, une occasion, et David le fuit. Il ne peut pas le tuer, il ne veut pas le tuer, il ne veut même pas toucher à quoi que ce soit de lui. À un moment donné, il coupe, il peut le tuer. Est-ce que Dieu l'a placé comme ça? Et c'est ça aussi qui est fort, c'est que c'est pas juste le fait de la situation est là, Dieu me donne l'occasion. Il réfléchit, il pense. Quand à un moment donné, Saül est là dans une grotte, David est caché derrière la grotte. C'est vraiment... Et lorsque tout le monde est endormi, il sort de là, il a l'occasion, il a l'opportunité de le tuer. Et il pourrait dire, mais Dieu nous donne l'opportunité de le tuer. Non, c'est le roi. Il a des principes. Il sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est le roi, je ne touche pas au roi. Quand bien même il veut me tuer, même s'il me tue, je ne touche pas au roi. Et il va, il découpe un pan de son manteau, il découpe un morceau, et puis de loin il dit, ah, tu vois. Et l'autre a peur, parce que finalement il se rend compte que ce jeune homme, il n'agit même pas comme lui-même, alors que c'est quelqu'un qui sait se battre, qui sait faire des choses. Il est plus spirituel, je vais dire. Il a des principes plus élevés que Saül. Et ces principes-là, Saül ne les a pas. Il ne respecte pas l'œuvre de Dieu, il ne respecte pas ce que Dieu a établi, il ne respecte pas ces choses-là. Mais David, tout berger qu'il était, savait respecter ces choses-là. Par contre, lorsque David, un jour, David partait en guerre, c'était un homme de guerre, et un jour que le peuple part en guerre, il décide de rester. Il dit, oh, je vais rester. Et c'est là que la tentation est venue. Il a peut-être voulu se faire un peu de bien et puis dire, bon, tout ça. C'est là que la tentation est venue et qu'il a pris la femme d'un homme. Mais pire encore, cet homme-là, de la même manière que Saül a fomenté comme David, David a fomenté comme cet homme, contre cet homme, a manigancé des choses contre cet homme pour que cet homme, déjà, de un, puisse mourir sans qu'il n'en soit pas tenu pour responsable. Parce que Saül, lorsque David a été accepté par le peuple, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il envoie sur le front pour qu'il se fasse tuer. Il envoie sur le front parce que c'était un rival, quoi. Il n'emmenait pas large, là, Saül. C'était un rival. Et donc, il envoie sur le front pour qu'il se fasse tuer. Saül ne se faisait pas tuer. Et il a tout cherché jusqu'au moment où il a vraiment cherché à le tuer par ses propres mains, quoi. Parce qu'au final, s'il était tué sur le front, bon, ben, ça va, c'est pas moi qui l'ai fait, quoi. Même s'il a manigancé derrière. Eh bien, chose étonnante, David fait la même chose. David fait la même chose avec Uri. Il demande à ce que Uri, d'abord, il revienne, et puis il cherche à l'envoyer vers sa femme, parce que sa femme était enceinte, donc il voulait un petit peu arranger la situation à sa sauce. Et Uri, qu'est-ce qu'il en était? Lorsque Uri vient, il dit, mais le combat n'est pas terminé. Le combat n'est pas fini. Moi, tant que le combat n'est pas fini, je continue. Et il a dit, non, je ne vais pas voir ça. Alors, je pense que David, ça a dû le décontenancer, parce que, on dit à un soldat qui revient, allez, vas-y, prends un peu de repos, il va prendre du repos. Et puis, c'était la situation un peu de David. Prenez du repos un peu. Mais cet homme-là, chose étonnante, n'a pas agi de la sorte, et il voulait terminer le travail dans lequel il était, il voulait continuer et retourner sur le terrain. Et ça, c'était pas dans les plans et c'était pas dans les projets de David. Parce qu'il s'est dit, on va pouvoir masquer tout ça. On peut masquer le péché. Il voulait masquer son péché. Et finalement, lorsque Uri retourne là-bas, il dit, d'accord, mais vous allez le placer au front. Et effectivement, il s'est fait tuer. C'est terrible. C'est terrible comme situation. Venant de la part de David, cet homme qui était sensible à la voix de Dieu, qui agissait, il a pris peut-être de l'âge, mais il s'est laissé avoir de la même manière que Saül s'est laissé avoir. À la différence, c'est que lorsque David, ça va jusqu'à ce que, il faut que Nathan vienne, parce que c'est celui qui a remplacé Samuel, c'est Nathan, il faut que Nathan, le prophète, vienne, lui fasse comprendre par une image qu'il connaît bien, c'est-à-dire les brebis et toutes ces choses-là, vu qu'il était berger. Si quelqu'un pique la brebis et tout ça, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais y aller, je vais lui rentrer dedans, ça va pas. On ne peut pas accepter ça. De qui il s'agit? Il s'agit de toi. Et David n'a pas fui. Et il a accepté, il a dit oui, c'est vrai, c'est ce que j'ai fait. Et il s'est humilié devant Dieu. Il s'est humilié devant Dieu, il a cherché la face de Dieu, il a cherché à ce que la sentence qui venait d'être prononcée, qui était que cet enfant allait être, allait mourir lorsqu'il serait né. Il cherchait à faire en sorte que peut-être Dieu va revenir de sa voix, parce qu'il connaît ses lieux. Il sait que Dieu peut revenir de ses décisions et changer le cours des choses. Il croyait en la rédemption. Il croyait que Dieu peut restaurer toutes choses. Ça, il le connaissait. Ça, il le savait. Mais dans cette situation-là, il a vu que ça n'a pas été le cas. Il a vu que ça n'a pas été le cas. L'enfant est quand même mort. Et les gens, ils l'ont vu porter le deuil. Et juste le jour où l'enfant est mort, il jeûnait et tout ça, il s'est arrêté. Les gens lui disent, mais quand même, avant tu étais dans l'abattement et maintenant c'est fini. Il dit, bah oui, mais parce que c'est Dieu qui a décidé. Je sais maintenant que Dieu a arrêté sa décision. Jusqu'à présent, peut-être, je pensais qu'il pouvait changer, il pouvait changer son avis, tout ça. Mais là, maintenant, je sais que Dieu a arrêté sa décision. Et il accepte la décision de Dieu. Et c'est ça, c'est une grande différence. Même si c'est vrai que David a péché grandement, il accepte la décision de Dieu. Il accepte et il continue d'avancer. Il accepte et il poursuit son chemin. À l'inverse de Saül qui était resté en arrière. De toutes ces choses que lui-même aurait peut-être voulu faire et que ça lui a coupé tous ses élans et il s'est retrouvé là. David accepte pleinement la volonté de Dieu et c'est la grande différence. C'est la grande différence avec Saül. Il accepte, il en prend la responsabilité, il a pris la responsabilité de ce qu'il a fait. Il a cherché à le cacher, mais quand ça s'est révélé, ben de toute manière, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est vrai. Il a demandé pardon à Dieu. Et Dieu l'a restauré. Et même cette femme qu'il avait épousée, donc l'ancienne femme d'Uri, continue à être son épouse par la suite. De là vient Salomon qui a été béni par Dieu, qui a été conduit par Dieu dans sa sagesse. Et c'est incroyable finalement de se dire que dans chacun d'entre nous, si on s'écarte de la voie de Dieu, on peut vite et rapidement devenir le persécuteur de quelqu'un d'autre. Et la semaine dernière, on parlait des persécutions. Mais quand on parle des persécutions, on parle de ceux aussi qui restent fidèles à Dieu, qui restent ancrés dans la volonté de Dieu. Et finalement, je me rends compte que c'est la chose la plus importante, c'est la plus primordiale, parce que nous sommes, nous, les uns, chacun d'entre nous, susceptibles de risquer de devenir le persécuteur de quelqu'un d'autre, pour quelque chose qui nous appartient, pour quelque chose qu'on aimerait recevoir, parce que la chair prend le dessus, parce que l'orgueil prend le dessus. Parce que nos vies ne cherchent plus ce qui fait plaisir à Dieu. Et c'est pour ça que je donnais la définition tout à l'heure de la relation avec Dieu. Cette relation avec Dieu, c'est la recherche de Dieu et le désir de Dieu. Rechercher et désirer Dieu, c'est ce qui pousse toute notre vie en avant. Et lorsqu'on commence à prendre des habitudes, c'est pas qu'elles sont mauvaises, mais lorsqu'on commence à prendre des habitudes et que les habitudes deviennent plus importantes que la recherche de Dieu, alors notre cœur dicte ce qu'il faut faire, notre chair dicte ce qu'il faut faire. Et nous ne cherchons pas forcément ce que Dieu veut. Nous ne cherchons pas forcément et nous ne l'acceptons pas forcément. David, lui, paye le prix fort parce qu'il a blasphémé le nom de Dieu. Au travers de ça, il a fait blasphémer le nom de Dieu et tout le monde en parle. Mais il sait s'humilier et reconnaître la souveraineté de Dieu. David sait être l'homme qui représente Dieu et qui conduit le peuple selon sa volonté à lui. À Dieu, je parle. Pas la volonté de David. Et je pense que c'est important, en tant que croyant, d'avoir ce caractère de pouvoir se mettre de côté pour laisser Dieu avancer au-devant de nous. Il y a beaucoup de choses, hein. on n'est pas parfait, mais nous sommes appelés à la perfection. L'objectif du Nouveau Testament, quand on lit le Nouveau Testament, c'est de devenir les imitateurs de Christ. Les imitateurs de Christ, ceux qui prennent exemple sur, ceux qui regardent, ceux qui apprennent, et ceux qui agissent et ceux qui font de la sorte. Devenir les imitateurs de Christ. Se mettre au service de la volonté de Dieu. Comme Christ l'a fait. Et on prend souvent ce passage dans Philippiens que je vais prendre encore. Parce qu'en plus, c'est le livre que Einstein vous lisez en ce moment. N'est-ce pas? C'est bien Philippiens, vous le connaissez bien? Ah, s'il arrive à le tourner mes pages avec une seule main. Voilà. Philippiens au chapitre 2. Qu'est-ce que j'aime ce passage? C'est pas la première fois que je vous le lis. Où il est dit à partir du verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. » Vous voyez, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Et ça, c'est la différence entre « j'ai telle fonction » et « j'agis de telle autre ». Je défends une fonction, je suis roi, donc il faut que les autres... Et je suis roi, vraiment. Dans le cas de... Et c'est l'exemple de Jésus est là aussi. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même. D'accord? Il s'est mis à part de lui-même. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Être les serviteurs et les servantes de Dieu passe par ce moment où nous lui disons ce que toi tu veux, pas ce que moi je veux. Ce que toi tu veux. J'ai envie d'une chose, j'ai envie d'une autre, j'ai envie d'une voiture, j'ai envie de ci, j'ai envie de là, j'ai envie d'être en bonne santé. Seigneur, ce que toi tu veux. C'est pas ce que je veux, c'est ce que toi tu veux qui importe. Et c'est ce qui dirigeait la vie de David, et c'est ce qui a fait une grande différence entre sa vie et celle de Saül. Parce qu'en voulant ce qu'il voulait, Saül, lui, il était dans le règne de la peur, dans le règne de l'insatisfaction, de ne jamais être exaucé, de ne jamais être satisfait. Mais David, lui, se satisfaisait de la présence de Dieu. Sauf peut-être les moments où ça ne s'est pas bien passé, mais il a rattrapé le coche. Et Dieu l'a restauré. Et de la même manière que Christ, lui aussi, a montré ce chemin, nous sommes en mesure, c'est la Bible qui nous le dit, parce que Dieu règne sur nos vies, parce que nous pouvons le demander à Dieu, parce que nous pouvons trouver auprès de lui notre assurance. Et quand un chrétien vient, quand quelqu'un vient auprès de Dieu, lorsqu'il donne son cœur, sa vie, lorsqu'il s'approche de Dieu, la chose qui fait la différence, c'est la paix de Dieu qui envahit. Dieu est celui qui nous donne la paix. C'est celui qui nous donne la paix et qui nous conduit dans la paix, dans l'assurance, dans la certitude que nous marchons dans sa volonté. Et pas dans la nôtre. Et c'est ça qui fait toute la différence. Ce partage aujourd'hui, j'espère que c'est pour vous un encouragement aussi de relire ces livres-là de Samuel 1 et 2 Samuel. Qui sont des richesses, mais à la lumière aussi du Nouveau Testament, de l'Évangile, de ce que Christ a accompli. Parce que tout ça, tout ce qui s'est accompli, si David accomplissait cela, c'était les prémices de ce que Christ avait accompli. C'était les prémices de ce que Christ voulait montrer aux gens. Et Christ pouvait s'appuyer sur ces exemples-là, pour aussi poursuivre ce chemin-là, dans la foi, dans la fidélité avec Dieu, dans la recherche et dans le désir de Dieu. C'était ce qui caractérisait David, et c'était aussi ce que Christ voulait montrer. Que ce soit aussi ce que nous voulions montrer, amen, mais pas juste montrer, vivre. On va prier. Seigneur, je te remets, Seigneur, nos cœurs, nos vies, nos penchants. On n'est pas parfait, mais nous voulons, Seigneur, nous conformer à la perfection qui est toi, ta personne. Nous voulons devenir parfaits comme toi, tu es parfait. Nous voulons nous humilier devant toi, Seigneur, comme toi, tu as su t'humilier. Nous voulons, Seigneur, nous approcher de toi, Seigneur, comme toi, tu savais t'approcher du Père. Nous voulons, Seigneur, nous laisser conquérir, Seigneur, par ta volonté. nous laisser conquérir par ce que toi tu veux. Nous laisser gagner, Seigneur, par ce que toi tu désires, au-delà de ce que nous voulons, Seigneur. Que ce soit dans l'église, que ce soit, Seigneur, à la maison, que ce soit dans toutes les situations qui peuvent être les nôtres, Seigneur. Te prions, Seigneur, de nous donner un regard nouveau, un regard neuf, pour chercher entièrement ta volonté et savoir nous mettre à part. Se mettre à part, Seigneur. Savoir mettre sa vie à part. Tu fais cette mise à part, Seigneur. Nous voulons aussi, Seigneur, nous mettre à part, Seigneur, pour toi. Seigneur, que tu sois cette lumière qui brille dans nos cœurs, dans nos vies et qui dirige toutes choses. Cette source abondante, Seigneur, qui gagne nos vies, Seigneur, qui remplit jusqu'au plus profond de nous-mêmes pour nous laisser emporter, Seigneur, par le torrent de vie que tu es. Seigneur, gagne nos vies entièrement. Parle à nos cœurs entièrement. Parle, Seigneur. Parle. Nous voulons écouter, Seigneur, mais peut-être ce ne sera pas ce que nous voulons écouter. Peut-être ce ne sera pas ce que nous voulons entendre, mais parle, Seigneur. Dirige-nous, Seigneur, toi. Dirige-nous, toi, Seigneur. Que ce soit toi qui dirige nos cœurs, qui dirige nos vies et qui décide. Seigneur, s'il y a des portes qui doivent être ouvertes, ouvre-les. S'il y a des portes qui doivent être fermées, ferme-les. S'il y a des chemins dans lesquels on se trouve, Seigneur, et dans lesquels tu ne veux pas qu'on se trouve, dans lesquels tu voudrais redresser toutes choses, rends-nous attentifs à ta volonté. Rends-nous attentifs, Seigneur, à ce que nous devons reprendre dans nos vies, de ce que nous devons corriger. Nous puissions, Seigneur, nous humilier devant toi, nous approcher de toi, Seigneur, avec un cœur reconnaissant, sachant ce que tu accomplis, Seigneur, ce que tu fais, et sachant te remettre, Seigneur, les clés de nos vies, les clés de nos cœurs, les clés, Seigneur, de toutes choses, parce que c'est toi qui sais mener à bien ces projets que nous ne savons pas mener. Que la peur s'écarte de nos vies, que la crainte s'éloigne de nos cœurs, et que ta paix, Seigneur, domine toutes choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.